Bonjour à toutes et à tous, chers amis auditeurs et auditrices. Je vous souhaite comme toujours la bienvenue pour ce nouvel épisode de Bande à part. Je vous souhaite également, en cette première émission de l'année 2024, mes vœux de santé et de paix, à vous ainsi qu'à vos proches. Vous êtes en compagnie d'Audrey Beldine. Nous sommes sur les ondes de Radio Alliance Plus pour Bande à part, l'émission d'histoire de l'art ouverte à tous et qui donne à entendre ce que vous pourriez voir. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à une œuvre discrète, une œuvre plus ou moins de circonstances, ou presque. Nous sommes au temps des galettes, on tire les rois, et pour cause, nous venons de fêter il y a quelques jours l'Épiphanie. J'aurais pu vous proposer le commentaire d'une adoration des mages, thème foisonnant dans l'histoire de l'art, mais je vous invite, par un petit pas de côté, ou plutôt un petit pas en arrière, à nous faire spectateurs d'une adoration des bergers. Et oui, ces pauvres bergers. Il faut leur rendre justice car, rappelons-le, ils sont bel et bien les premiers à venir adorer l'enfant dans la crèche. Ce sont eux les premiers avertis et les premiers témoins de l'incarnation, mais les rois mages venus de loin leur ont souvent volé la popularité qu'ils méritent. Je vous propose donc, dans cet épisode, de les remettre à l'honneur. Le tableau du jour est l'adoration des bergers de Mathias Thom, conservé au musée des Beaux-Arts de Nantes. Il s'agit d'une œuvre relativement grande, car elle mesure près d'un mètre cinquante sur près d'un mètre quarante. Son auteur est un peintre de la première moitié du XVIIe siècle. On situe sa naissance autour de 1600, près de la ville d'Utrecht, et sa mort vers 1650 en Italie, sans doute en Sicile. Mathias Thom est un peintre néerlandais très productif, qui, comme beaucoup de ses confrères, fit carrière en Italie. Travaillant sur commande et pour les grands de ce monde, il est attesté qu'il fut à la tête d'un atelier en la ville de Naples. Mais comme toutes les figures secondaires de l'histoire de l'art, sa biographie reste incertaine. Il existe, pour nous, au travers de quelques 200 œuvres qui nous sont parvenues. Influencé par les disciples et suiveurs du Caravage qui œuvraient alors en Italie, son style est principalement dédié à la mise en valeur d'épisodes bibliques, au travers de clairs obscurs et de compositions intimistes, avec insistance sur la psychologie des visages. D'ordinaire, je vous propose de rentrer dans l'œuvre au travers d'une courte narration que je prends la peine d'écrire. Mais cette fois, je vous propose de nous reposer ensemble sous la plume de l'évangéliste Luc. C'est en effet lui, parmi les quatre évangélistes, qui relate la visite des bergers. Rappelons-le, nous parcourons les versets 8 à 20 du chapitre 2 de cet évangile, et Jésus vient de naître. Cette lecture est une traduction de la Bible de Jérusalem. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes objets de sa complaisance. » Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né, couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé.
And no one knew I really to one side and let us dance. It's a strange kind of peace. It's a kind of peace. It's a strange kind of peace. It's a kind of peace. Being here in the dark, under a starless sky, it's quieter than a church before the crowds arrive. When the world is mine and no one else is, with my thanks and love and my thoughts and wishes to give and to ask, it's a kind of peace. It's a kind of peace.
Pour en revenir au récit de l'évangile de Luc, il est important de noter combien il est synthétique. Les bergers sont des anonymes, on ne sait même pas combien ils sont à venir contempler le Christ. À cet égard, si l'on s'intéresse à la composition du tableau de Matthias Thom, elle est tout aussi synthétique. Au premier plan, mais au centre, l'enfant Jésus est posé sur ce qu'on distingue être une meule de foin. Il est emmailloté jusqu'au nombril, dans un linge immaculé. Tout aussi immaculée est la seconde pièce de linge, doublée dans sa longueur, et sur laquelle il repose, ainsi séparé de la meule. Au plan intermédiaire, trois personnages, dont les visages se succèdent sur une même ligne. De gauche à droite se tiennent debout un homme jeune, un vieillard, en témoigne sa barbe, et la Sainte Vierge. Tous trois contemplent l'enfant. Le jeune berger esquisse un sourire retenu. Son visage resplendit d'une douceur juvénile. Il se tient d'ailleurs en retrait de son aîné de compagnon, à qui il cède ainsi la meilleure place, tout en lui apposant la main sur l'épaule. Le vieux berger est, lui, complètement absorbé par sa contemplation. Les avant-bras repliés, ses mains ouvertes ne sont pas sans évoquer à la fois un geste d'accueil de la grâce et à la fois la fascination de celui qui découvre un trésor. D'ailleurs, Marie a toute conscience de ce trésor qu'elle dévoile au monde dans un geste délicat. En effet, du bout des doigts, elle tient les coins du linge où repose l'enfant. Elle semble presque découvrir un présent. Comme le veut la tradition, sa robe est rouge, son manteau bleu. Un fichu blanc lui couvre les cheveux à la mode paysanne. Le jeune homme a lui aussi la tête couverte en signe de déférence. Le berger plus âgé n'a pas de couvre-chef, mais on l'imagine très bien l'avoir enfoui au préalable dans une de ses poches. Tous deux portent des capes de voyageurs, ou sinon d'hommes exposés aux températures rigoureuses. Il ne s'agit pas d'une scène de faste, et les tenues sont humbles. À l'arrière-plan du tableau, Joseph, barbu, veille sur la scène. Son corps disparaît derrière l'épaule de la Vierge, mais on en voit suffisamment pour distinguer le bâton qu'il tient. Bâton du juste, bâton du guide. La barbe qui vient couronner le visage de Joseph est très longue. Elle consacre la sagesse du personnage. Enfin, dans l'obscurité de cet arrière-plan, on distingue une voûte, et plus loin, une tête de bovin et ce qui semble être des frondaisons d'arbres. L'élément architectural confirme que la composition à cinq personnages est une scène d'intérieur, un huis clos au cadrage resserré, tout en clair-obscur, et où la proximité des personnages renforce la dimension intimiste de la scène. Matthias Thom n'est pas l'objet de nombreuses monographies, du moins accessibles en français. Une simple recherche d'images sur la toile permet cependant de le situer comme un artiste respectable et plutôt productif, car les contenus sont variés. Il maîtrise la technique du clair-obscur, se l'approprie et se montre créatif au travers de cette manière de peindre toutefois très codée. Il n'est cependant pas le Caravage, fameux peintre italien, initiateur de cette mode de peinture en clair-obscur qui séduit l'Europe au cours du premier XVIIe siècle. Autrement dit, les contenus critiques sur les œuvres de Mathias Thom sont quasiment introuvables à partir du net, et pour l'adoration des bergers, le web est quasi muet. De là, comment interpréter cette œuvre quand on en sait si peu, à la fois sur son auteur et sur son contexte de création? Dans un premier temps, il faut souligner encore qu'il s'agit d'une œuvre minimaliste. L'évangile de Luc en dit très peu sur les détails de la visite des bergers. De la même manière, l'œuvre de Thom évacue les fioritures. Mais dans sa simplicité, l'œuvre n'est pas sans parti pris. La composition est simple, mais elle révèle des choix. D'abord, il a pris ici le parti de faire figurer deux bergers, mais pas n'importe lesquels, un jeune et un vieux. Ce choix de générations opposées permettant peut-être de les embrasser toutes. Ce sont en effet jeunesse et vieillesse réunies qui viennent adorer le Christ, soit tous les hommes, et en comparaison des savants, des mages qui viendront ensuite, tous les humbles. Ensuite, il a pris le parti de donner à voir l'instant de la rencontre entre ces humbles et l'enfant par l'intercession de Marie. C'est elle qui dévoile l'enfant Dieu aux pécheurs, elle le découvre, et eux accueillent sa grâce. Joseph est présent mais en retrait. Il n'y a pas d'âne, juste un bœuf. Pas de détails d'architecture et de nature assez visibles pour révéler les splendeurs d'un paysage, car ce qui compte, c'est la rencontre entre Dieu et les hommes, et rien d'autre. Thom est sans doute en Italie à cette époque. La contre-réforme bat toujours son plein, et l'on suppose aisément que cette œuvre est une commande, soit d'un riche personnage, soit d'une institution religieuse. C'est une scène biblique, comme elles sont courantes à l'époque, mais j'en viens à l'interprétation générale en osant dire que l'on peut considérer avoir affaire ici à une œuvre prétexte. Cette adoration des bergers est une opportunité pour le peintre de déployer son talent. Son talent à dépeindre les drapés, les mains et les visages, l'ombre et la lumière. Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the blackbird pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you are to, what you are to. Reasonable, sensible, different from the neck up. I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but not. No, no, for no real reason. Squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. The elephant that's in the room is tumbling, tumbling, tumbling. And duplicate and triplicate and plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck. Stop. We thought you had it, but no, no, no. Exactly where do you get up? Is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I stop. There's no real reason. Les mains de chacun des personnages sont visibles. L'ensemble des personnages permet ainsi de déployer des variations autour de la main. Main d'adulte, main du nouveau-né, main posée sur une épaule, main qui pince une étoffe, main qui s'ouvre ou encore qui tient un bâton. Les visages sont expressifs, tous contemplent, mais chacun avec une expression particulière, et chacun d'eux révèle une psychologie singulière que je vous laisserai apprécier. Les vêtements sont soigneusement rendus. Et la position privilégiée de l'enfant Jésus au premier plan ne nous échappe pas, ni le soin porté aux effets de l'étoffe qui le recouvre ou sur laquelle il repose. Nous disions que la scène était celle des humbles. Cependant, la blancheur du linge de l'enfant Jésus est une indication. Elle suggère sa royauté d'une part, car les étoffes les plus blanches étaient de tout temps les plus raffinées et les plus prisées. La blancheur convoque aussi le regard et le canalise, le cœur du tableau, c'est donc l'enfant. Mais au vu de la lumière irradiante dont resplendit l'étoffe, on peut se demander légitimement si c'est ici l'écriture sainte qui fait le cœur du tableau, ou si c'est le traitement de la lumière. À cette période, en Europe, on est friand de scènes contrastées entre ombre et lumière. Les éclairages à la chandelle sont d'ailleurs nombreux dans les peintures produites pendant cette période. Mais ici, la lumière d'où provient-elle? Certes, le Christ est la lumière, ce qui sert le propos, mais techniquement, l'absence de source identifiable et visible de lumière souligne combien c'est la manière du peintre qui compte ici. On peut considérer que l'enfant Jésus est dans une nuée, mais on peut tout à fait considérer combien la mode picturale est importante. En somme, c'est une peinture à effet spécial que nous avons ici. L'adoration des bergers est un sujet courant dans la peinture. De nombreux peintres se sont livrés à l'exercice. Matthias Thom, lui, l'a peint plusieurs fois. Dans ces versions qu'il a produites et que j'ai pu observer, au-delà de celles qui nous occupent, on constate que ce stratagème de la lumière qui irradie de l'enfant et de ses langes est systématiquement répété. Ceci, autant pour servir l'enseignement religieux de l'épisode que pour servir une composition où tous les regards convergent vers l'enfant. En comparant, il ressort également que l'artiste a plusieurs fois privilégié de figurer un enfant nu sur les langes, tandis qu'ici, il a choisi d'en cacher la nudité. Les autres versions accessibles font figurer davantage de bergers, parfois des femmes font partie du groupe, parfois les bergers apportent avec eux des offrandes de nourriture. Ces variations s'inscrivent toutes dans une tradition picturale courante, les détails privilégiés par Thom l'étant aussi par d'autres peintres avant et après lui. Mais dans cette œuvre conservée au Musée des Beaux-Arts de Nantes, ce qui frappe, c'est la sobriété. Un comité restreint avec deux bergers seulement vient rencontrer la Sainte Famille. La crèche est réduite à sa plus petite échelle, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de prosternation, pas de nature visible, pas d'architecture détaillée non plus, la scène est réduite à son minimum, comme dans l'évangile de Luc. Le choix d'un cadrage resserré projette le spectateur dans une action immédiate et qui plus est, au cœur d'un instant figé. Rappelons-le, Marie d'un geste délicat semble tirer un linge pour découvrir l'enfant au regard des bergers qui eux-mêmes s'extasient. Matthias Thom fixe ici l'instant de la rencontre avec une économie de moyens évidente et c'est là toute la force de cette œuvre. Voilà, chers amis auditeurs, je viens de vous livrer un commentaire possible de l'œuvre de Matthias Thom et je ne peux que vous inviter à vous saisir de vos moteurs de recherche et à en découvrir en images cette adoration des bergers conservée à Nantes. Je vous conseille d'ailleurs de vous rendre directement sur le site du Musée des Beaux-Arts de Nantes où vous pourrez explorer les collections et retrouver cette œuvre par une recherche simple. Au cours de cette émission, nous avons successivement écouté Kind of Peace de Faceless et Faust Harp de Radiohead. Sur ce, il me reste aussi à vous souhaiter une agréable fin de journée. Dans l'attente de notre prochain rendez-vous, portez-vous bien.
Radio Alliance Plus, la musique d'ici ou d'ailleurs.